journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, Kaboul, de nouveau endeuillé par un attentat, 63 morts et près de 200 blessés aux États-Unis, des voix s'élèvent de nouveau pour convaincre l'administration Trump de ne pas procéder à un retrait massif des troupes américaines, précision dans un instant de Sébastien Berriot. Nous serons en ligne également de Hong Kong, où vient de prendre fin un rassemblement de militants pro-démocratie à l'appel du Front civique des droits de l'homme. Et puis nous prendrons la mesure des difficultés rencontrées à bord de l'Open Arms par les migrants et les personnels de l'ONG espagnole, dont le navire est toujours à l'ancre, à 800 mètres de Lampedusa, correspondance de Madrid, de Pierre Chaperon. En Afghanistan, quelques heures après un attentat suicide perpétré lors d'un mariage célébré à Kaboul, 63 morts et 182 blessés selon un dernier bilan, des responsables talibans prétendent qu'ils ne sont pas les commanditaires de ce carnage. Les insurgés ne peuvent se soustraire à leur responsabilité dans cette attaque barbare, déclare ce matin le président afghan Ashraf Ghani. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Sébastien, c'est à coup sûr l'attentat qui a tué le plus de civils depuis le début de l'année.
Oui, les personnes qui participaient à cette fête de mariage dans la périphérie de Kaboul étaient en train de danser lorsque le kamikaze s'est fait exploser au milieu de la salle. Il y avait plusieurs centaines d'invités. Les vitres ont été soufflées, le plafond s'est effondré et au sol donc 63 victimes décédées et 182 blessés qui ont été transportés à l'hôpital de Kaboul, dont de nombreux enfants. La télévision afghane a montré tout à l'heure les premiers enterrements dans les cimetières de la ville, notamment l'enterrement de 14 membres d'une même famille. Difficile de savoir ce midi qui est le commanditaire de cet attentat. Les talibans ont condamné l'explosion et nié toute responsabilité. Commettre de tels assassinats contre des femmes et des enfants n'a aucune justification, ont tweeté deux porte-parole du mouvement insurgé. Une condamnation qui n'a pas convaincu du tout le président afghan Ashraf Ghani. Le chef de l'État a mis en cause les talibans, les insurgés pas forcément exécutants dans cet attentat, mais accusés par le président de fournir une base aux terroristes et d'avoir donc contribué aux 63 morts de ce matin.
Sébastien, cet attentat qui survient en pleine négociation entre les États-Unis et le Taliban a relancé les craintes d'un retrait précipité et massif de troupes américaines.
Oui, des négociations qui se déroulent au Qatar sans la présence du gouvernement afghan et qui, selon les États-Unis, sont en très bonne voie. Le négociateur américain est attendu à Doha dans les prochains jours pour peut-être finaliser la discussion. L'objectif est de conclure un accord de paix prévoyant le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et en échange, les talibans, eux, s'engageraient à garantir la sécurité et à ne plus soutenir les groupes terroristes. Un accord qui donne de l'espoir à une partie de la population afghane. L'entente entre États-Unis et talibans pourrait permettre de faire baisser la violence quotidienne. Mais cet accord inquiète aussi beaucoup. Une fois les troupes américaines retirées, une partie de la classe politique afghane redoute un retour aux règles drastiques du régime taliban qui était au pouvoir à la fin des années 90. Donald Trump, très pressé de mettre un terme à la présence militaire avant la présidentielle de 2020, pourrait être tenté par un accord rapide, sans réelle garantie en matière de sécurité, au risque de répéter l'erreur de Barack Obama en 2010. Le retrait total d'Irak avait entraîné le pays dans une vague de violence sans précédent.
Merci à vous Sébastien Berriot. À chaque appel lancé par le Front civique des droits de l'homme, des centaines de milliers de personnes ont afflué dans les rues de Hong Kong. Qu'en est-il ce dimanche? Le rassemblement Parc Victoria, initié par cette organisation pacifique, a qui plus est été autorisé par l'exécutif hongkongais. Bonjour Valérie Crovin.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Hong Kong. Vous êtes rendu à ce rassemblement qui s'est déroulé, il faut le préciser sans tarder, sous des pluies diluviennes.
Oui, effectivement, les militants pro-démocratie voulaient faire de cette journée une démonstration de force et ce fut le cas malgré cette pluie torrentielle dont vous parlez, qui s'est abattue dès le début de la manifestation, mais qui n'a pas dissuadé la foule, une foule compacte qui s'est réunie dans le calme. Alors la majorité des participants étaient vêtus de t-shirts noirs, c'est la couleur de ralliement du mouvement, et d'autres avaient apporté des pancartes sur lesquelles était dessinée, vous savez, une cible avec une tache rouge en référence à cette jeune fille qui a perdu un œil la semaine dernière suite au tir d'un projectile. Hong Kong libre, démocratie, Hong Kong n'est pas la Chine. Les organisateurs du Front civique des droits de l'homme à l'origine de ce rassemblement ont scandé au micro des slogans qui ont été repris par tous les participants. Des participants qui ont demandé également le départ de la chef de l'exécutif Carrie Lam, la fin des violences policières et la libération des manifestants qui ont été emprisonnés. Ce rendez-vous se voulait crucial pour la suite du mouvement. Les militants pro-démocratie qui ne lâchent rien veulent montrer à Pékin et à leurs dirigeants qu'ils bénéficient toujours d'un large soutien parmi la population de Hong Kong après plus de 2 mois maintenant de protestations.
Merci à vous Valérie Crova et Jérémy Tuile à Hong Kong. Et si les négociations et autres revirements aboutissaient à un no deal s'agissant du Brexit? Le Sunday Times s'est procuré des documents officiels qui égrènent les mesures envisagées par les autorités en cas de no deal et il pourrait avoir pour titre ce rapport mal tenu secret en attendant des jours pires. Londres, Haute Soufie.
Nom de code Yellowhammer, mais le Sunday Times l'a rebaptisé Opération Chaos, tant la situation décrite par ce dossier confidentiel du gouvernement est préoccupante. Jusqu'à 85% des camions qui traversent la Manche ne seraient pas prêts pour les autorités douanières françaises. Les perturbations dans les ports pourraient durer jusqu'à 3 mois avant une éventuelle amélioration du trafic. Conséquence, des pénuries d'essence, de nourriture dont les prix augmenteront et de médicaments puisque le Royaume-Uni importe les 3/4 de sa consommation par le tunnel. Les passagers et des aéroports et des gares devront aussi s'attendre à des retards. Selon les documents du gouvernement, le rétablissement d'une frontière physique entre les deux Irlandes est probable en cas de no deal. Les plans actuellement envisagés pour éviter des contrôles généralisés se révéleront inapplicables. Le dossier prévoit en réaction des manifestations, des blocages sur les routes et des actions directes, entraînant une mobilisation accrue des forces de l'ordre et sans doute une augmentation des effectifs pour faire face aux protestations qui auront lieu dans tout le pays.
La crise politique en Grande-Bretagne, plus de 100 députés appellent le Premier ministre Boris Johnson à convoquer immédiatement le Parlement en vacances pour débattre bien sûr du Brexit. Rappelons que le gouvernement de M. Johnson ne dispose que d'une majorité d'une voix au Parlement. Un accord de répartition a pourtant été signé. Il ne peut toujours pas accoster l'Open Arms. Le navire de l'ONG espagnole compte à son bord 107 rescapés d'une tentative de traversée de la Méditerranée, secourue il y a plus de 2 semaines au large des côtes libyennes. Il est à l'ancre à quelques centaines de mètres des pontons de Lampedusa. Pierre Chaperon est à Madrid.
Exténué, fatigué, au bord de la crise de nerfs, la situation des passagers de l'Open Arms est tendue. Sur les images que diffuse la télévision publique espagnole, on voit des hommes, des femmes désespérés. Résultat, le commandant de bord, Marc Reich, tire la sonnette d'alarme.
Nous ne pouvons plus tolérer ça. À chaque seconde qui passe, le déclenchement de la bombe se rapproche ou quelqu'un coupe le fil et désactive la bombe maintenant ou alors l'Open Arms va exploser.
Situation explosive. Une dizaine de personnes ont été évacuées pour urgence médicale dans la nuit de jeudi à vendredi. Les 27 mineurs non accompagnés également le samedi. Mais l'état psychologique des passagers empire selon les communiqués que distribue l'ONG qui gère le bateau. Des conditions difficiles comme l'explique ce médecin à bord.
On a demandé l'évacuation d'urgence parce qu'on s'est rendu compte que sur le plan médical ou psychologique, ça s'était aggravé.
En attendant, 6 pays de l'Union européenne se sont dit prêts à accueillir ces migrants. Mais à seulement 800 mètres des côtes de Lampedusa, les désormais 107 passagers restent à bord dans des conditions plus que difficiles.
Vanessa Campos, elle aussi, a vécu les blessures de l'exil avant d'être assassinée il y a 1 an et 1 jour dans le bois de Boulogne. Vanessa Campos, prostituée transgenre, est morte sur son lieu de travail. Les associations de défense des travailleuses et travailleurs du sexe sont désespérées de constater que les lois en vigueur fragilisent encore et toujours les prostituées. Hier, lors d'un hommage rendu à Vanessa Campos, Antoine Ferreira a sollicité Diane Leriche, porte-parole de l'association Acceptes Trans.
On est là parce que Vanessa, ça fait 1 an qu'elle est assassinée, donc on fait un rassemblement pour un recueillement et aussi pour des revendications. C'est-à-dire qu'en 1 an, la situation n'a pas changé. C'est toujours la même précarisation au niveau des travailleurs du sexe à cause de 2 lois. La loi asile et immigration qui les touche en tant que migrantes et la loi de pénalisation des clientes qui les touche en tant que travailleuses du sexe. L'État est complice. Chiapa, ça fait 1 an que c'est le silence complet. Il se passe rien. C'est-à-dire que la justice, s'il n'y avait pas les associations, s'il n'y avait pas les filles qui se défendaient, eh ben ça serait passé à l'ombre comme ça, il n'y aurait rien eu. Et simplement parce que c'est une femme trans, migrante, travailleuse du sexe, et du coup c'est comme si c'était un sous-être humain. Et ça on ne l'accepte pas. Et c'est-à-dire que chaque personne ici en France a le droit d'être défendue, d'être protégée. Stop à ces lois, écoutez-nous, on a des choses à dire, on a plein de solutions en plus pour que la situation s'améliore pour ces personnes.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. 12 départements de l'Est de la France en vigilance orange aux orages à partir de 15h. Temps perturbé sur une grande partie du pays. Seule la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et la Corse bénéficieront d'un temps le plus souvent bien ensoleillé. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili, à la technique Jean-Frédérix.